Vous écoutez, on lit pour vous.
La Cour fédérale rejette la cause des Inuits du Labrador contre le Nunatukavut. Un texte de Radio-Canada, d'après un reportage de Brett Forrester de CBC, paru le 13 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador. La Cour fédérale rejette la contestation judiciaire de la nation Inuit contre la reconnaissance fédérale d'un groupe du Labrador. Ce dernier fait des affirmations contestées au sujet de son identité inuit. La juge Cicely Wise Strickland a rejeté mercredi la demande de contestation juridique de la nation Inuit du protocole d'entente conclu en 2019 par le gouvernement du Canada et le conseil communautaire du Nunatukavut. La juge explique dans sa décision que l'entente ne constitue pas une reconnaissance de droits autochtones du Nunatukavut. Les tribunaux ne peuvent pas trancher la décision d'Ottawa de conclure cette entente. Toute conséquence négative sur les droits des Inuits serait hypothétique. Le Nunatukavut, qui est controversé, représente environ 6 000 personnes qui se présentent comme des Inuits. Jusqu'en 2010, ces personnes se disaient métisses. L'Organisation nationale Inuit Tapiriit Kanatami ne les reconnaît pas. La nation Inuit comprend deux communautés au Labrador. Le gouvernement du Nunatsiavut, qui représente les Inuits reconnus dans le nord du Labrador, considère le Nunatukavut comme étant une organisation coloniale qui se livre au vol de l'identité inuite. Les arguments. Dans le protocole d'entente, le gouvernement fédéral décrit le Nunatukavut comme une collectivité autochtone susceptible de détenir des droits autochtones en vertu de l'article 35 de la Constitution du Canada. Les Inuits soutiennent dans leur cause que l'expression « collectivité autochtone » est insignifiante, puisque seuls les peuples autochtones du Canada peuvent exercer ces droits constitutionnels. La nation Inuit et le Nunatsiavut soutiennent que la décision du Canada de conclure l'entente était erronée et non raisonnable. Mais, dans sa décision de mercredi, la juge Strickland conclut que le protocole d'entente constitue uniquement l'expression de la bonne volonté et d'un engagement politique. Il ne crée, ne modifie, ne reconnaît, ni ne nie aucune obligation, ni aucun droit légal ou constitutionnel à l'égard de l'une ou l'autre des parties. Le Nunatukavut peut être reconnu ou non comme faisant partie des peuples autochtones du Canada à l'issue de ces négociations avec le fédéral, et le protocole d'entente ne constitue que le début de ce processus, selon la juge. Le protocole d'entente ne reconnaît pas non plus le conseil communautaire du Nunatukavut à titre de peuple autochtone au sens de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, peut-on lire dans le rapport. Par conséquent, toute incidence sur les droits du Conseil communautaire du Nunatukavut, du Canada ou de la demanderesse est totalement hypothétique et ne découle pas du protocole d'entente. La nation Inuit soutient aussi que le gouvernement a manqué à son devoir de la consulter au sujet du protocole d'entente. La juge rejette cet argument en expliquant que l'obligation de consulter n'a pas encore été déclenchée, parce que de telles décisions de nature conceptuelle n'ont aucun effet préjudiciable notable sur les droits revendiqués. Le Nunatukavut se réjouit. Le président du conseil communautaire du Nunatukavut, Todd Russell, juge que son organisation vient de remporter une victoire éclatante. « Nous sommes très heureux que le tribunal ait entendu, écouté, et agit d'après les preuves, étayées par la loi et les faits. Nous avons hâte de poursuivre les négociations », affirme Todd Russell dans une déclaration écrite. CBC a contacté les autres groupes participant à cette cause, mais ils n'ont pas encore réagi à la décision de la Cour fédérale. C'était « La Cour fédérale rejette la cause des Inuits du Labrador contre le Nunatukavut », un texte de Radio-Canada, d'après un reportage de Brett Forrester de CBC, paru le 13 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.
Des Québécois se tournent vers l'Ontario pour faire dégriffer leur chat. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 29 juillet 2024 dans Le Devoir. Depuis qu'il est interdit de faire dégriffer son chat au Québec, des propriétaires de félins se tournent vers l'Ontario pour faire opérer leur animal. Et des cliniques se montrent ouvertes à les accueillir. La représentante du Devoir s'est fait passer pour une cliente à la recherche d'une clinique pour faire dégriffer un chat de 4 mois. « Est-ce que ça pose un problème que je vienne du Québec? » a-t-on demandé à une clinique vétérinaire de la région du Niagara. « Pas du tout. Nous avons justement eu récemment quelqu'un du Québec qui est venu faire opérer son chat. » Une autre clinique, cette fois dans la région de Cornwall, a aussi accepté de nous donner un rendez-vous. « J'habite au Québec, mais on ne peut plus faire cette procédure ici. C'est pour ça que je cherche. Un hôpital vétérinaire en Ontario ?» a complété la réceptionniste. « Oui, on peut vous donner un rendez-vous », a-t-elle ajouté. Par courriel, une troisième clinique, située en banlieue de Toronto, a bien voulu elle aussi nous donner un rendez-vous. Pour faire dégriffer un chat dans l'une de ces trois cliniques, il en coûte entre 600 $ et 1 200 $. Des Québécois persévérants. En février 2024, le Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés est entré en vigueur au Québec, bannissant plusieurs interventions chirurgicales, dont le dégriffage des chats, ainsi que la dévocalisation, la coupe de la queue et la taille des oreilles des chiens. Le dégriffage empêche les félins d'abîmer les canapés et les rideaux de leurs propriétaires. Quant aux opérations pour les chiens, elles sont de nature esthétique et pour les empêcher d'être bruyants. L'Ontario est la dernière province canadienne qui permet toujours ce type d'opération, mais peu de cliniques vétérinaires offrent encore ces services. Des Québécois se montrent néanmoins persévérants. Des cliniques ontariennes situées près de la frontière québécoise disent être régulièrement sollicitées. « On reçoit plusieurs appels par jour de Québécois », indique Tracy Jaudoin, agente du service à la clientèle de la Lancaster Veterinary Clinic, située à une 15 minutes en voiture de la frontière québécoise. Le dégriffage est la demande la plus populaire, mais on leur dit que ça fait 10 ans qu'on n'en fait plus. Une autre réceptionniste d'une clinique d'Ottawa dit recevoir des appels de Québécois environ une fois par semaine. On dirait qu'ils font une tournée d'appels pour voir qui fait ces opérations, mais nous, on ne le fait pas. Et on décourage fortement les propriétaires d'animaux de le faire, dit-elle, en précisant ne pas vouloir être nommée puisqu'elle n'est pas autorisée à parler aux médias. Une troisième clinique de l'Est ontarien, qui ne fait plus non plus ces opérations, nous a aussi dit être sollicitée de manière occasionnelle par des Québécois, la vaste majorité du temps pour le dégriffage des chats. Peu d'informations. L'Ordre des vétérinaires de l'Ontario et l'Ontario Veterinary Medical Association disent ne pas détenir de données ni d'informations sur des Québécois qui se rendraient dans la province voisine pour obtenir ce type d'opération. Mais rien n'empêche un vétérinaire ontarien de procéder à ses interventions sur des animaux provenant de l'extérieur de la province, indique Karen Ward, chef des services vétérinaires à la Toronto Humane Society, un organisme promouvant le bien-être animal. Ça n'a pas vraiment d'importance d'où vient le propriétaire, indique-t-elle, en ajoutant qu'elle s'oppose néanmoins à ces opérations médicalement inutiles qui sont ni bénignes ni inoffensives pour les animaux. C'est décevant, dit-elle, que l'Ontario attire des Québécois pour cette raison. Vous écoutez, des Québécois se tournent vers l'Ontario pour faire dégriffer leur chat. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 29 juillet 2024 dans Le Devoir. contournée. Maître Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal, dit aussi être déçue d'apprendre que des Québécois cherchent à contourner l'interdiction. Le dégriffage est une amputation de la troisième phalange des doigts des chats, ce qui leur cause des torts physiques et psychologiques, rappelle-t-elle. Ça crée de la douleur chronique et ça empêche l'expression de comportements naturels chez les chats comme grimper, se percher et faire ses griffes. Le fait que des Québécois se tournent vers l'Ontario indique qu'il faut continuer à prendre notre bâton de pèlerin pour expliquer pourquoi ces chirurgies sont interdites, croit le docteur Gaston Rioux, président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Actuellement, le guide d'application du règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés précise qu'il est interdit de se rendre dans une autre province ou un autre pays pour faire dégriffer son chat ou faire tailler les oreilles d'une portée de chiot. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, MAPAC, indique avoir reçu des plaintes concernant des opérations interdites effectuées depuis février. Mais le MAPAC n'a pas voulu préciser si ces interventions avaient été effectuées dans la province ou ailleurs. Malheureusement, le ministère ne peut commenter de dossiers particuliers, a-t-on répondu au Devoir. En cas d'infraction, la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal prévoit des amendes de 1 000 $ à 25 000 $ pour les personnes physiques et de 2 000 $ à 50 000 $ dans les autres cas. Le MAPAC dit procéder à des inspections à une fréquence régulière pour les établissements détenant un permis ou, sinon, lorsqu'il reçoit une plainte. De leur côté, les vétérinaires ont l'obligation de faire un signalement au MAPAC s'ils constatent qu'un animal a subi une opération interdite. Quand on parle de bien-être animal, le médecin vétérinaire est tenu de dénoncer, précise le docteur Rioux. Interdiction de posséder. Maître Gaillard estime que si cette pratique de se déplacer à l'extérieur des frontières québécoises, en Ontario ou dans des États américains, pour faire opérer son animal persistait, d'autres mesures législatives pourraient être envisagées. On pourrait rajouter dans le règlement une disposition qui interdit la possession d'un animal qui est né après l'entrée en vigueur de l'interdiction et qui a subi ses chirurgies, avance-t-elle. En Irlande, par exemple, il est interdit depuis 2013 de faire tailler les oreilles des chiens et, depuis 2023, de posséder un chien qui a subi cette opération. Des Irlandais traversaient les frontières pour aller faire tailler les oreilles de leurs chiens ailleurs, note-t-elle. Selon le Dr Rioux, le problème pourrait se résorber de lui-même si l'Ontario emboîtait le pas aux autres provinces. En 2020, un projet de loi visant à interdire ces interventions a été déposé à Queen's Park, mais n'a pas été adopté. De nombreuses voix continuent néanmoins de faire pression sur le gouvernement. La Dr Karen Ward de la Toronto Humane Society croit qu'une telle interdiction pourrait facilement être incluse dans la loi ontarienne sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux, PAW Act. J'espère que nous allons suivre l'exemple du reste du pays. Beaucoup de gens travaillent en ce sens. Alors je vous dirai de rester aux aguets. Pas de dégriffage non justifié au Québec. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction en février 2024, quelques cas au Québec de dégriffage de chats ou d'opérations de chirurgie esthétique pour des chiens ont été signalés au bureau du syndic de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Dans une réponse écrite envoyée au Devoir, l'Ordre indique que des vérifications ont été effectuées et qu'aucune infraction n'a été notée au code de déontologie. Les chirurgies étaient justifiées au regard des normes de pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles de la science médicale. Par le fait même, une indication médicale thérapeutique justifiait la chirurgie. Ces opérations demeurent en effet permises pour traiter une maladie ou une blessure existante. L'Ordre précise qu'un autre signalement fera l'objet d'une enquête sous peu. C'était Des Québécois se tournent vers l'Ontario pour faire dégriffer leur chat. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 29 juillet 2024 dans Le Devoir.
Barbie tombe amoureuse d'une PME québécoise, un texte d'Isabelle Dubé, paru le 4 juillet 2024 dans La Presse. Le géant bien connu du divertissement Mattel a choisi une PME de Québec pour célébrer les 65 ans de la célèbre Barbie. Pour l'occasion, l'entreprise québécoise Grazy a créé un dessert glacé Barbie X Grazy à saveur de gâteau de fête de rêve, distribué ce jeudi dans 500 épiceries de la province. En tant que féministe et grande fan de Barbie, je suis très fière de ce partenariat, s'exclame l'entrepreneur Maude Saint-Pierre au téléphone, qui raconte le coup de cœur réciproque qui s'est produit entre Mattel et son entreprise. C'est lors d'un événement à Toronto à l'automne 2023 que la magie a opéré. Un représentant de Mattel est passé à son kiosque et a été séduit par la marque, les couleurs, le dynamisme, les valeurs d'inclusivité et les produits innovants de Grazy à base de plantes. Le géant du divertissement cherchait à mettre en lumière différents modèles de femmes, ainsi que des entreprises canadiennes issues de la diversité, qui sont des acteurs de changement dans leur domaine, explique l'entrepreneur. Je leur ai proposé de faire un dessert glacé spécialement pour l'anniversaire de Barbie. En décembre dernier, avec mon équipe, on a développé ce dessert à la saveur de gâteau de fête de rêve, qui est vraiment festif, qui célèbre les femmes et la diversité. Mattel l'a aimé et on a signé l'entente d'une durée de 3 ans en février. Une belle robe rose en peau pour l'occasion. Parfait pour les gourmands qui surveillent leur taux de cholestérol et les intolérants au lactose, les desserts glacés Grazy sont faits à base d'avoine canadienne et sans produits laitiers. Bien que la glace soit rose Barbie, ni arôme ni colorant artificiel n'ont été utilisés, précise Maude Saint-Pierre, qui a eu recours au jus de betterave. Le dessert à l'odeur de glaçage à la vanille est magnifié par des confettis, mais toujours sans allergènes ni OGM. On voulait quelque chose de coloré, d'amusant, qui s'adresse à notre clientèle, mais qui reflète aussi les valeurs de Barbie, d'émancipation des femmes et de curiosité. Le dessert glacé Barbie X Grazy à saveur de gâteau de fête de rêve est lancé officiellement ce jeudi dans les marchés d'alimentation des enseignes Metro, IGA, ainsi que plusieurs enseignes indépendantes et épiceries naturelles. Gâteau de fête de rêve restera sur les rayons, même après les 65 ans de la poupée. D'autres parfums et types de produits de la collection Barbie X Grazy s'ajouteront à l'automne 2024. Une idée d'athlète. Maude Saint-Pierre a démarré sa food tech dans la ville de Québec en 2020 sous le nom de Seva. Elle a été la première à lancer une glace molle végane à base de lait d'avoine. L'entrepreneur a commencé par distribuer ses produits à travers le Canada auprès des restaurateurs et institutions, notamment Chocolat Favori, Groupe MTY, Collabor Distribution, Paral Distribution et Dubé Loisel. Diplômée de l'Université du Québec à Rimouski, Campus Lévis, en administration et finances d'entreprise, la jeune femme a participé en 2016 au championnat du monde ITU de duathlon en Espagne. C'est en préparant ce championnat, alors qu'elle procédait à des changements dans son alimentation, qu'elle a eu l'idée des produits véganes. J'ai finalement décidé d'être végétarienne en 2016 et je me suis rendu compte à l'époque qu'il y avait peu d'alternatives. J'ai commencé à m'intéresser à cette catégorie d'aliments et j'ai vu qu'il y avait une opportunité dans les desserts glacés, particulièrement chez les restaurateurs. À la demande des consommateurs, Maud Saint-Pierre et son équipe ont choisi d'élargir la distribution des desserts glacés Grazy qui ne sont plus réservés aux restaurants. Ils sont maintenant offerts en épicerie et en ligne. C'était Barbie tombe amoureuse d'une PME québécoise, un texte d'Isabelle Dubé, paru le 4 juillet 2024 dans La Presse.
Les solutions écolo pour remplacer le gazon et garnir les plates-bandes. Un texte de Florence Dancause, paru le 13 juillet 2024 dans La Presse. Avoir un gazon vert uniforme n'est plus l'idéal, surtout dans cette ère de changement climatique. On se tourne vers des options de couvre-sol plus écologiques et demandant moins d'entretien. Du côté des plates-bandes, on cherche des plantes qui seront résilientes face aux chaleurs et aux pluies diluviennes qui ponctuent nos étés. Voici les suggestions des experts. Pelouse diversifiée. Exit le gazon Kentucky Bluegrass, vert foncé et dense. On privilégie une pelouse diversifiée. On peut retrouver des paquets prémélangés de semences variées. Dans notre contexte québécois, on peut prendre tous les mélanges qui vont avoir de la fétuque, d'autres espèces de graminées et du trèfle, suggère Émile Forêt, cofondateur de Nouveaux Voisins, un organisme qui offre des services d'aménagement paysager pro-diversité. Le trèfle, par exemple, va nourrir le sol et y ajouter de l'azote. La pelouse diversifiée est le meilleur des mondes, affirme Joshua Jari, préposé au renseignement horticole du Jardin botanique. On vient ajouter à la biodiversité, on aide les pollinisateurs, on aide la résilience de l'écosystème de sa pelouse et on vient garder tout l'espace habitable de sa pelouse. Thym serpolet. Le thym est une plante très souvent conseillée parce qu'elle peut être exposée au soleil et elle fait de belles fleurs fragrantes, plus ou moins mellifères, explique Joshua Jari. De plus, le thym serpolet est une plante qui pousse au ras du sol et qui crée un tapis végétal assez dense. Le thym sera moins résistant au piétinement que la pelouse, tout comme les autres types de couvre-sol, explique-t-il. Dans cette optique, il est important de se questionner sur l'utilisation de notre cour. Le thym peut aussi attirer des bourdons, des guêpes et des abeilles. Donc, on s'abstient d'en tapisser le terrain de jeu des enfants. Le thym requiert également d'être planté dans des endroits secs, fait savoir Émile Forêt. Petite pervenche. Notre pelouse ne pousse pas, car il y a trop d'ombre. On peut essayer de la remplacer par de la petite pervenche, qui est idéale pour les espaces à couvrir sous les arbres ou les jardins de sous-bois. Ce couvre-sol au feuillage persistant, vert et luisant, ne dépense pas le gazon et fait de jolies fleurs, indique Joshua Jari. La plante peut être envahissante, met en garde le préposé au renseignement horticole du Jardin botanique. On évite donc de planter la petite pervenche près d'un milieu naturel ou trop près de voisins. Asclépiade. Envie d'une plante robuste dans vos plates-bandes? On fait une place pour l'asclépiade, fait valoir Joshua Jari. Émile Forêt abonde dans le même sens. La plante indigène tolère des stress intéressants en milieu urbain, explique-t-il. L'asclépiade peut pousser dans un sol pauvre et elle aime le soleil. Elle est bonne pour les pollinisateurs et est essentielle pour les monarques. renchérit Joshua Jarry. On évite cependant d'en planter si on a un petit jardin. La slépiade a tendance à coloniser un espace. On lui réserve donc un endroit où elle ne pourra pas nuire aux autres plants. Hosta. On aime beaucoup le grand feuillage dans nos jardins. On vise l'hosta, une plante incroyablement résiliente, indique Joshua Jarry. Il y a beaucoup de variétés, dit-il. On peut en avoir avec un feuillage aux couleurs qui vont du vert pâle au vert foncé au jaune. Certains hostas produisent des fleurs qui peuvent être mellifères. Celui-ci conseille d'en planter dans un endroit ombragé. Monarde. La monarde est intéressante à ajouter à notre jardin, selon Émile Forêt. La plante est une championne de la biodiversité et est particulièrement vigoureuse, s'exclame-t-il. Avec ses fleurs rouges, violettes, roses ou blanches, elle attire les abeilles et les colibris. La monarde peut, par contre, être envahissante. Ça prend un jardin assez grand pour l'accueillir, précise le cofondateur de Nouveaux Voisins. Avant de planter. Avant de choisir une plante pour le couvre-sol ou pour les plates-bandes, on doit réfléchir aux spécificités de son espace extérieur. On peut réfléchir à son ensoleillement et à la quantité d'eau qu'on reçoit, illustre Joshua Jarry. Ça va nous permettre de faire un choix qui est beaucoup plus personnalisé et qui va augmenter les chances de succès du jardin. Il faut aussi changer nos attentes face à notre espace vert, croit Émile Forêt. Le cofondateur de Nouveaux Voisins nous invite à voir notre terrain comme un petit coin de nature. Notre cour est ombragée et humide. On peut l'imaginer comme une petite forêt et y planter des plantes qui y pousseraient. Notre cour est plutôt dégagée et ensoleillée. Ce sera plus une prairie, fait valoir Émile Forêt. Elle n'est pas juste une pièce de la maison, c'est le morceau d'un écosystème, insiste-t-il. L'idée est d'augmenter la richesse de la diversité et la complexité végétale de notre cour pour la rendre plus résiliente. C'était les solutions écolo pour remplacer le gazon et garnir les plates-bandes. Un texte de Florence Dancause, paru le 13 juillet 2024 dans La Presse.